Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Geekbécois Extra, votre podcast aux deux semaines, avec un petit extra pour que vous puissiez patienter, hey boy, je m'en fâche, ça y est. Alors, on est avec Bruno,
hey.
Salut Bruno, Laurent,
bonjour,
on a Jonathan aussi avec nous,
bonjour,
et Jean-François qui va prendre vos questions et vos tweets pour que vous puissiez réagir avec nous.
Hey, hey.
Mon nom est Steve, je serai votre animatrice pour la soirée et je sens bon.
Salut Steve.
Salut. J'espère.
10, 9, 8.
Bon, tweet ta boîte. Ok, fait qu'on voit que notre intro a vraiment été rodé solide.
Écoute, alors, des années de pratique ça, hein?
Ouais. Ça va bien les gars?
Ouais. Oui, ça va super bien toi.
Oui, je dis les gars parce que Alexandra n'est pas avec nous ce soir. La seule petite partie féminine qu'on avait nous a délaissé ce soir.
C'est un show de testostérone.
Elle puis Lynn. Hein?
Oui, Lynn, que je remplace encore une fois. Vous allez devoir m'excuser. Lynn est encore une fois malade, incommodée par... je pense qu'elle s'est cassée le coccyx. En tout cas, quelque chose de même. Non, Lynn, Lynn est absente, alors je remplace. Je vais faire de mon mieux pour rendre ça agréable pour vous. Alors, vous avez... avant de rentrer dans la grosse matière du podcast... je vais vous donner les moyens d'entrer en interaction avec nous, en contact avec nous. Alors, premièrement, sur Twitter, il y a le hashtag Geekbécois, sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions, poster vos commentaires sur ce dont on parle.
Et puis, ouais, nous allons faire du twivage stream direct Internet Skype.
Ouais, c'est ça. Hey man, il y avait de la techno là-dedans, mon gars.
Oui, on est high-tech.
Alors, Jean-François va s'occuper de vérifier ça. Puis, n'hésitez pas non plus d'utiliser la page Facebook. Face livre. Facebook, ça va planter ce soir. pour communiquer avec nous, pour vos questions aussi et vos commentaires. Puis, il y a aussi évidemment le chat de Ustream que je crois est intégré à la page de podcast du site geekbécois.com.
J'espère.
Ben sinon, de toute façon, sur le...
Vous allez directement sur le site de Ustream, on a le chat directement là et on regarde tout ce que vous écrivez. Donc si vous nous insultez, on va le savoir.
Voilà, précision de Bruno ici. Alors, on a un nouveau membre avec nous ce soir, Jonathan Le Monde. Le Monde, Jonathan.
En effet.
Hein? Alors, Jonathan vient d'arriver avec nous dans l'équipe de Geekbécois. Va écrire quelques articles, va faire partie de la famille. Alors, on l'accueille tout le monde avec un petit applaudissement de golf, s'il vous plaît.
Golf slap.
Si.
Oui. Voilà. Alors, fait que c'est ça, moi, pour entrer dans le big du podcast, j'aimerais vous faire part de quelques petites manchettes que j'ai trouvées.
Oh oh!
Question de rentrer tranquillement dans le vif du... Le vif de qui, déjà?
Le sujet.
Ah, le sujet, c'est ça.
Une chance qu'on est là.
Oui, merci. Finalement, on est quatre animateurs ce soir, OK?
Moi, je vais faire ma.
Tu vas faire...
C'est
quoi?
Ben, tu fais « a », je vais faire « ni », « ma », puis « teur ».
Ah oui, mais...
Et on est quatre.
« Teur », il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait arriver plus tard.
OK, c'est comme Paul et Paul, mais 20 ans plus tard.
Voilà. Hey, de quoi qu'on parle, man? OK, excusez.
On parlait de nouvelles, je crois.
Oui, alors j'ai...
Il s'est pas passé grand-chose cette semaine côté techno. C'est-tu parce que mon BlackBerry marche pas que je sais pas?
Ben voyons donc, toi, de quoi tu parles? T'es-tu en train de me dire que ça va mal pour BlackBerry, Laurent?
Je dis ça allait pas bien. Après ça, ça a été pire. Après ça, ça va pas fort. Puis là, c'est aujourd'hui, aïe aïe.
Mais,
ça va pas pantoute.
On m'a confirmé un peu plus tôt aujourd'hui que BlackBerry, en fait... Research in Motion, qui est propriétaire de BlackBerry, avait reçu leur billet directement pour l'enfer. Donc voilà, ça va pas bien. pour ceux qui sont pas au courant, ou si vous avez un BlackBerry, ben c'est pas sur votre appareil que vous avez eu la nouvelle. Il y a une grosse panne. Il y a une panne qui était concentrée en Amérique du Nord, mais surtout vers les États-Unis. Et là, ça semble être pas mal partout. Même au Canada, là, ça a commencé à, comment dire, avec des beaux mots doux... À chier dans la pelle?
Ouais, ben c'est la plus grosse panne de l'histoire de BlackBerry pour le service de messagerie des appareils BlackBerry. C'est vraiment catastrophique pour eux, surtout que de plus en plus, les utilisateurs se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin des services de BlackBerry. Avant, c'était l'exclusivité, hein, c'est eux qui nous ont amené vraiment la messagerie instantanée de email, les push emails sur les appareils mobiles. Il n'y avait personne d'autre qu'eux avant. Moi, je me souviens, mon Samsung, j'avais un petit truc MP3 avec TELUS, puis pour avoir mes emails, ça me prenait au moins 10 minutes. Il fallait que je me logue sur un site qui me donnait un code, qui m'envoyait un SMS que j'allais sur une page web qui ne marchait pas. Mais BlackBerry, eux autres, depuis très, très longtemps, email instantané, super bien intégré, puis c'est ce qui les a rendus célèbres. Puis là, maintenant... Pourquoi on serait encore avec eux, là? Tous les autres offrent ça. On peut avoir ça de n'importe qui.
C'est ça. Fait que on dépend des serveurs BlackBerry, ce qui rend vraiment la chose difficile. Donc, quand les serveurs BlackBerry décident de dire « Hey, moi, je prends un break », ça fait B.
Ouais, ben ça, même pour les entreprises ou les organisations qui utilisent le système BlackBerry, déjà qui n'ont pas le choix d'avoir leur propre serveur de BlackBerry, mais en plus que ça passe par les serveurs de RIM sur Internet de façon obligatoire, c'est comme maillon faible tout le temps qui on ne sait jamais. Là, ça, dans le fond, là, c'est probablement en train de confirmer la crainte de plein d'administrateurs réseau depuis des années qui n'arrêtent pas de dire à leur patron « Non, mais là, on dépend des serveurs de RIM. Si ça plante, on est dans la merde, il n'y a plus rien. » Ben voilà, ça vient de le faire pour la comme 3e ou 4e fois depuis une couple d'années, la plus grosse maintenant. Je pense que là, il y a des gens qui vont commencer à renouveler leur contrat ailleurs. Là.
C'est pas comme s'il n'y avait pas eu l'occasion aussi, puis l'occasion de se backer un petit peu, là, parce que, écoute, ils ont jamais évolué
depuis 2005, puis ils font juste montrer qu'ils sont pas capables de bouger, d'être en 2011 et de dire « Hey, nous autres aussi, on est bien. » Non, on offre encore des téléphones qui ont un nombre limité de sonneries que... On peut lire nos emails, parfait, mais on dépend des serveurs BlackBerry. Puis avec leur dernier coup de playbook, là, fait petit un petit peu RIM. Là, le playbook, dans le fond, c'est pas une tablette à part entière. Non, c'est juste une extension de ton BlackBerry. Et si t'as pas de BlackBerry, ben, tout bad.
Ben ça, la playbook, je pense que c'est une erreur administrative, tout simplement. Parce qu'il y avait un problème, c'était que le produit n'était pas prêt. Le produit réel, le playbook complet qu'ils voulaient faire, il était pas prêt, il n'a pas fini le développement. Puis là, tous les compétiteurs arrivent sur le marché. Il y avait une fenêtre d'opportunité qui passait, puis ils ont joué le jeu. Est-ce qu'on sort ce qu'on a ou est-ce qu'on laisse passer ça puis on revient l'année prochaine? Ils ont décidé de le sortir. Puis d'après moi, ça a été une erreur parce que les consommateurs n'aiment pas ça. Les produits à moitié finis qui ont l'air d'être un troisième prototype de la table du designer en arrière.
C'est ça.
Ça n'a pas levé. Puis pourtant...
Aussi, je te laisse aller.
Ah non, vas-y.
Mais aussi, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est plus pour des gens qui ont investi dans RIM, parce qu'on s'entend, c'est une entreprise canadienne.
Nous, ben oui, ça fait partie des portfolios de plein de monde.
Ça fait, mais non seulement ça, ça fait aussi partie du portfolio de la grosse caisse de retraite canadienne. Nous autres, on a notre caisse, la FTQ. Le reste du Canada a sa caisse à eux autres. Puis, eux autres ont investi à peu près... Ils ont investi, je pense, pas loin de 50% de leur actif dans Research in Motion pour la simple raison juste... que, hey, c'est une vache à argent à Star Le Monde.
Fait que là, on est en train de me dire qu'ils sont en train de se préparer pour refaire exactement la même erreur qu'ils ont fait les investisseurs avec Nortel. Oh, une grosse multinationale canadienne qui réussit de façon spectaculaire. Vite, on met tout notre argent.
Ça coulera jamais.
Ça crache, on met plus rien.
Ça coulera jamais.
J'ai Maxime Tremblay qui nous répond sur Twitter qu'il y a eu plein de pannes avec BlackBerry au bureau, justement.
Ah, imagine, là. Tu sais, à la veille d'une grosse sortie d'appareils en plus comme l'iPhone 4S, la nouvelle génération d'appareils qui sort, c'est-tu le genre de truc que tu veux qui arrive à ta compagnie alors que t'es probablement, ben plus maintenant avec Android, là, mais un des gros compétiteurs de la marque, tu sais?
Faut dire, en ce moment, ils dominent parce que les business roulent surtout là-dessus, mais tu viens juste de prouver que ton produit n'est pas capable d'avoir les reins solides. Puis à la minute qu'on fait un petit changement, ça explose. Là. C'est vraiment pas cool.
Oui, ben c'est ça qui arrive quand on a un service dont les gens dépendent à ce point-là. tu peux pas te permettre d'erreur. Il y a juste aucune marge de manœuvre. Imaginez comme quand Google a des problèmes avec Gmail, parce que ça arrive, là. Personne n'est à l'abri des problèmes informatiques. Mais quand Google a un problème avec son service de courrier, c'est la catastrophe. Puis en fait, c'est la même chose. C'est des centaines de milliers de personnes, voire des millions, qui capotent. Oh my God, j'ai plus mes emails, ma compagnie roule plus, l'école, ça roule plus. Ça arrête tout. Tout ouais, arrête quand on n'a plus notre méthode de communication qui privilégie.
On a tellement eu une dépendance là-dessus, c'est fou, là.
Ouais, ben c'est ça. Puis dans le fond, ben ce qui est, genre, je pense que là où je m'en allais avec ça, c'est qu'ils sont en train de prouver qu'ils sont pas capables de mettre un niveau de fiabilité assez haut pour que ça puisse être un bon service. Parce que Gmail, je reprends l'exemple de Gmail. Combien de fois, moi, depuis toutes les années où ce que j'ai mon système de courrier là, combien de fois j'ai eu de panne de plus que quelques minutes, de quelques heures tout au plus? Très peu. Au et point que je ne me rappelle pas c'est quand. Puis pourtant, BlackBerry, ça fait les nouvelles à chaque fois. Tandis mais que où? Gmail, on a un petit post sur le blog. On s'excuse quelques heures de oups, soubresaut.
On n'oublie pas, Laurent, que Gmail est gratuit puis que BlackBerry, tu payes en bitch. Là. Tu t'attends quelque chose de fiable. Là,
oui, c'est les gros dollars. Puis alors, pourtant, ça marche pas mieux qu'un service gratuit. Mais bon, ils payent autrement, le service gratuit. Là. On s'entend, c'est pas gratuit pour vrai, etc.
Il y a des publicités, les compagnies pour avoir des serveurs, parce qu'il y a des compagnies littéralement qui roulent sur Gmail, mais c'est un Gmail corporatif, les Google Apps.
Oui, absolument, mais je parle point de vue de l'usager, là, point de vue du consommateur. C'est gratuit pour nous, Gmail, alors que si tu payes pour un appareil, payes pour un service pour le BlackBerry et que ça te plante dans la face de même.
Et que BlackBerry te remboursera pas le service, ils vont juste dire « Ah, ben, désolé, notre serveur a planté, on vient de rectifier la situation en mettant un petit plaster, puis en disant « Ok, c'est correct, le serveur, on te fera plus chier. » Puis c'est réglé de même, puis après ça, c'est fini, là. Tu sais, je veux dire, c'est toi, l'utilisateur, qui paye tant par mois pour avoir accès au serveur de BlackBerry, ben...
Bien voilà!
En bon québécois, je m'excuse, crosse-toi!
Wow. Une affaire que je me demande, par exemple, c'est si on n'est pas en train de switcher pour exactement la même chose avec ce qui s'en vient, c'est-à-dire iMessage de Apple, qui est leur réponse officielle en tant que système de messagerie entier, instantané, texto, bon, c'est toute la patente, là, on en exclusive. A parlé dans les trucs de iOS 5. Et puis, je repensais à ça tantôt, mais c'est exactement la même chose. On dépend entièrement d'un système centralisé sous le contrôle d'une seule compagnie que si ça plante, tout le monde perd tout. Puis si jamais on devient dépendant des services de iMessage, autant qu'on est présentement dépendant des services de RIM pour le BlackBerry, est-ce qu'on va pas juste avoir exactement la même discussion plus tard quand le service de iMessage va planter? Peut-être que c'est une foule de direction.
Je ne sais pas, avec la culture Apple, ça risque de... C'est parce que, tu sais, à minute que quelque chose plante, là, on s'entend qu'il y a quelqu'un qui vient de perdre sa tête chez Apple quand il y a quelque chose qui plante chez Apple. Je veux dire, si le iCloud tombe, là... Il y a au moins 5 développeurs que la Switch est pesée et que leurs bureaux se sont vidés automatiquement. Là.
Ils sont tombés dans le container.
Les cartons sont arrivés en premier puis bye.
C'est ça. J'ai Eric Noël sur Twitter qui demande si la panne a été trouvée la raison.
Ils ont commencé à faire les correctifs et puis présentement, selon ce qu'on a eu vers 18h comme information, c'était que maintenant le problème, c'est l'accumulation... Le backlog, dans le fond, là. Tous les serveurs qui ont accumulé des courriels qu'ils ne pouvaient pas donner, ça l'a engorgé les services partout dans le monde. Puis là, maintenant, le problème est rendu là. C'est l'engorgement de l'accumulation de tous les systèmes qui n'arrivent pas à se revider au fur et à mesure. On parle encore de pas mal d'heures, voire jours, avant que ça se soit résorbé. S'il n'y a pas d'autres problèmes qui surviennent ou si les systèmes tiennent le coup, parce que j'ai pas eu... la source exacte du problème à date. C'est très flou. Tous les communiqués de presse, c'est un problème informatique. Nous avons résolu la cause, mais on ne sait pas c'est quoi. On sait que, selon eux, c'est les serveurs qui ont arrêté de recevoir du courrier puis que ça a commencé à s'accumuler. Ils ont apparemment réglé la cause de l'arrêt, mais maintenant, est-ce que c'est réglé pour vrai ou c'est une patch? On ne sait pas.
Selon la société de presse, en tout cas, ils ont déclaré que c'était surtout pas un hacker comme des gens... aurait pu penser, c'est pas une attaque pirate. C'est pour le moment, ça n'a pas été prouvé que c'était ça. Donc, on se range du côté de la panne technique en ce moment.
Oh, on s'entend que quand PlayStation a annoncé que, justement, je pense que c'est notre prochain sujet, mais que PlayStation a annoncé que le service est down pour des raisons X, puis finalement, ça a leaké que finalement, on s'est fait hacker, puis toutes vos informations de carte de crédit sont en danger.
C'est jamais arrivé, ça.
Je veux dire, c'est jamais arrivé avec BlackBerry, mais j'espère que si c'est arrivé, il roulait pas sur Windows Me.
Mais une chose est sûre, c'est que les services de BlackBerry ont quand même la réputation d'avoir été assez sécuritaires depuis le début, parce que ça a fait partie du design initial, puis c'est pour ça que les compétiteurs ont eu beaucoup de difficultés à percer en entreprise au début, parce que les premiers appareils de tous les autres qui n'étaient pas des BlackBerry n'avaient pas l'encryption matérielle intégrée dans l'appareil, les services d'effacement d'appareils à distance automatisés, les intégrations n'étaient vraiment pas au point que BlackBerry a fait pour la sécurité des appareils. Fait que je les crois quand même que il y a des fortes chances que ce soit pas un piratage ou un truc de sécurité, que ce soit plus comme vraiment un problème informatique, matériel, ou comme ça a été le cas pour d'autres, des employés qui ont juste pesé sur le mauvais bouton.
Mais pour finaliser avec ça, là, juste à dire que ceux qui sont malheureusement avec BlackBerry sont pris là-dedans, c'est comme un piège, il n'y a rien qu'ils peuvent faire à part se faire donner des excuses, puis lorsque le service va être rétabli, restez avec nous, on va vous offrir ça. Alors, moi, je trouve
ça vraiment
dommage.
Donc, la leçon du jour, c'est si vous avez un BlackBerry, changez de téléphone.
Ben, c'est pas vraiment ça, parce que, écoute, pour ceux qui en ont besoin vraiment pour leur modèle d'utilisation, surtout, on parle des gens d'affaires, les gens qui voyagent beaucoup, c'est quand même idéal. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un téléphone flashy. Surtout que maintenant, avec la vente des tablettes, les gens ont besoin d'un téléphone qui va leur servir d'assistant personnel, un peu comme un BlackBerry. Puis le reste des tâches qu'ils ont effectuées, ben, ça va sur la tablette, ça va sur le
laptop. Ça, c'est un bon point, ça. Je vois ça, le combo, moi, d'un bon appareil qui est axé téléphone messagerie seulement, rien de flafla, mais une bonne tablette branchée pour tout le reste des applications.
Écoute, les applications sur le BlackBerry App Store, j'en ai déjà eu un BlackBerry, puis c'est rien de spectaculaire. C'est vraiment du basique, puis c'est pas pour ceux qui veulent du jeu ou du divertissement là-dessus, oubliez ça. Là. Même la plupart des nouveaux modèles, c'est rien de spectaculaire. Fait que c'est selon moi, c'est complémentaire à un autre appareil un peu plus performant. Alors, c'était ça, c'était ma manchette. Alors, je m'en allais me coucher, moi, il est tard, là.
Quoi d'autre qui s'est passé d'intéressant cette semaine?
Ben voilà, on en a glissé un mot il y a quelques minutes avec Bruno. PlayStation Network, ça va bien, hein? On a 93 000 comptes qui ont été incapacités. Je crois que c'est tombé aujourd'hui, la nouvelle. Il y a des gens qui veulent pas laisser Sony tranquille. Alors, il y a eu une nouvelle attaque. On dit près de 100 000 comptes.
Ouais, 93 000 selon les articles les plus récents que j'ai trouvés.
C'est ça.
Mais bon, rendu là, on sait jamais exactement, là, une débit plus ou de moins.
Écoute, mais tu sais, ils ont tout essayé pour avoir gardé leur monde. Puis là, en plus, avec leur nouvelle clause dans le EU League, oh mon Dieu, faudrait traduire ça en français.
Le contrat. La licence d'utilisateur, l'entente avec utilisateur.
Merci beaucoup.
Le contrat qui n'a pas de poids légal dans la plupart des États.
Exactement, sauf que pour avoir accès au PlayStation Network, on a eu à télécharger une mise à jour il y a deux semaines. Et une des pièces majeures de cette mise à jour-là, c'est que tu devais signer électroniquement, c'est-à-dire tu devais accepter une entente comme quoi, s'il arrive quoi que ce soit avec PlayStation, tu ne peux pas les poursuivre. Et tout le monde veut pas, on n'a pas eu le choix, on a été pris avec ça, parce que sinon, tu perds ton accès à PlayStation Network, donc tu peux plus jouer à des jeux en ligne, tu peux plus télécharger de démos, si tu es abonné à un Netflix ou quoi que ce soit, tu peux plus télécharger de films, alors c'est merveilleux.
Puis c'est là, pour ça que maintenant, mon laptop est sur... C'est parce que moi, le PlayStation Network, à part le fait qu'il déconnecte à tout bout de champ et que malheureusement, des belles affaires, comme tu viens de nous expliquer, Steve, arrivent, ça me tente plus. J'ai quand même investi, pas payé d'argent sur le PlayStation Network. J'ai profité du package Welcome Back.
Ouais,
et malheureusement, je veux dire, avec l'autre hack, ils nous ont garanti que notre serveur est safe. excuse, tente pas plus de mettre mon information de carte de crédit.
Ah, c'est ça. Écoute, tout le monde y retournait à reculons, là, c'est officiel. Là, fait que moi, je trouve ça dommage. Écoute, ça doit pédaler dans ces bureaux-là, mes amis. Ça doit gosser, ça doit travailler comme des fous. Malheureusement,
ou au contraire, il se passe absolument rien, puis c'est les boss qui capotent, puis en fait, la raison de leur échec, c'est parce qu'ils sont pas assez sérieux.
Ah, c'est une
ça, on le sait pas, c'est de la grande supposition, mais à un moment donné, le nombre d'échecs qu'ils ont eu chez Section Online Sony, ça a juste pas d'allure, là. Tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe, là? Il y a eu des attaques informatiques qui ont été faites avec des vulnérabilités connues depuis des années dans des modules web. C'est textbook, là. Un administrateur en bonne et due forme, il s'installe là, dans son ordinateur la première fois, il fait comme, bon, est-ce que la liste de tout ce qui est connu est patchée? Oui, bon, prochain projet. Mais là, c'était même pas ça, là. Il y avait des affaires qui étaient là, qui étaient même pas patchées, c'était juste la porte ouverte. Ouais, vraiment la porte grande.
Je pense que c'est une vieille version de serveur.
Mais quand il y a une routine qui s'installe aussi... Tu commences à être confortable, t'es moins sur tes gardes, puis c'est là que t'es
vulnérable. Ça fait plusieurs années que ça roule, ça va bien. C'est pas grave, on n'a pas fait la mise à jour, on le fera la prochaine fois.
Ça presse pas, ça arrive encore,
puis à un moment donné, paf.
Et 10 ans plus tard, oh non, on a perdu des millions de comptes et des cartes de crédit. Comment on va expliquer ça au grand public?
Ce qui est triste, c'est que c'est pas juste des comptes. Si c'était juste des comptes, ça me dérangerait pas trop parce que ce serait comme un inconvénient. T'sais, tu veux jouer, puis là, ça plante, ça marche plus, tu peux plus jouer. Bon, OK, big deal, c'est plate. Mais là, c'est qu'on a de l'information confidentielle, personnelle de millions de personnes qui fuient du système, puis que là, on peut utiliser pour faire du vol d'identité, de la fraude, toutes sortes d'ennuis. Aïe aïe, ça, c'est complètement débile. Puis je pense que les gouvernements devraient serrer la vis sur les entreprises, comme ils ont déjà commencé, mais je pense que c'est pas assez, pour forcer un contrôle de sécurité beaucoup plus rigoureux sur de un. Pourquoi tu veux vraiment tenir de l'information? Puis, as-tu vraiment besoin? On peut peut-être faire ton système sans cette information-là de tes utilisateurs, puis sans celle-là, puis utilise juste son nom. Pas besoin de la date de naissance, pas besoin du numéro d'assurance sociale. Mais les compagnies, ils s'en foutent de ça. Ils vont juste dire, regarde, on ramasse tout, puis on a un dossier complet, puis on est bien content.
Ah, écoute, des belles compagnies comme Facebook vendent l'information que tu leur donnes. C'est ce principe-là. Sony, eux autres, ils utilisent cette information-là après ça. Hey, on a une banque d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ah, écoute, on va vendre. On va essayer de rendre nos jeux plus intéressants pour cette banque d'utilisateurs-là. Donc, eux autres, là, ramasser le plus de données possible, là, comme ton adresse, où c'est que tu habites. Ou, je sais pas, là, on peut aller.
Oui, oui, c'est vrai, c'est des bonnes études de marché pour pouvoir mieux cibler. Puis, je te donne raison là-dessus, mais il y a bien des choses que je pense qui sont pas nécessaires. Il pourrait y avoir une ségrégation de l'information. Système A, qui n'est pas lié avec les cartes de crédit, qui possède juste l'information des personnes, puis système B qui est transactionnel, qui fait juste des transactions, mais qu'il n'y a pas d'information personnelle, puis que les deux systèmes ne se parlent pas, puis qu'ils sont complètement séparés, bien, ça fait que quand tu t'en fais pirater un, l'information que la personne A est plus modeste. Là, c'était un portail complet. Là. C'est genre, il est carrément rendu avec mes comptes de banque, puis il sort tout. Tout ce qu'il y a dans mes vidanges le soir, ben il y a déjà toute l'information. Puis,
je suis pas sûr que Sony ait ces informations-là sur moi, à moins que j'aie rempli une clause.
Vous voyez, sur Twitter, j'ai quelques réponses et il n'y a personne qui a eu aucun lag.
Ah, mais c'est ça.
Avec la PS3, là.
Ça n'a sûrement pas été dirigé ici, là.
Mais c'était minime, là. Je crois qu'il y a eu 90 000 membres seulement, là, qui a été atteint, là.
C'est ça, 95 000.
Non, en fait, pire que ça, c'est qu'ils ont fermé. Ils disent qu'ils ont fermé l'accès à cette quantité de comptes-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est cette quantité-là qui a été volée, en quelque sorte.
OK.
C'est ça, c'est généralement là, c'est en sous-investigation. Je veux dire, rappelez-vous dans le temps que la fameuse CryptoKey de Sony a été découverte par Geo Hotz, le nom de l'hacker, du hacker qui travaille maintenant chez Facebook. Écoute, là, il y a des comptes, là, ils ont utilisé la CryptoKey pour justement, tu sais, comme, ils ont utilisé cette clé-là pour pouvoir mieux profiter du PlayStation. Et ce que PlayStation a fait, c'est simplement les bannir. Sauf que la CryptoKey leur donne, c'est le pouvoir de se débannir en le transférant sur quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que, moi, je spécule, là. Est-ce que c'est toute cette grosse débâcle-là actuelle serait liée avec une nouvelle utilisation qu'on a trouvée de la CryptoKey? On ne sait pas.
Ben, écoute. Mm-hmm.
Parce que la CryptoKey, c'est vraiment la clé pour tout faire avec. D'ouvrir ton PlayStation et de dire, il est à moi maintenant. C'est plus Sony qui a le contrôle dessus.
Ouais, mais tu sais, eux autres, c'est des groupes comme LolSec, mettons, là, qui s'amusent à faire ça. Une faille apparaît, ils sautent dedans à pieds joints. Là, on s'entend que c'est leur plaisir. Puis c'est malheureusement, c'est ça a déjà été à nos dépens. Ça va peut-être l'être dans le futur avec d'autres services hyper populaires. Fait que faut malheureusement s'y attendre. J'aimerais closer là-dessus parce que j'ai une dernière petite manchette. Après ça, on va passer à vos sujets.
Okay. Juste avant que tu la fasses, j'ai une précision à donner que je viens de ramasser concernant le problème avec PlayStation. C'est qu'en fait, l'attaque c'était une attaque extérieure d'essai et erreur pour découvrir des mots de passe à des noms d'utilisateurs. C'est comme une attaque dictionnaire ou une attaque de force brute. Donc, ils ont suspendu les comptes qu'ils suspectaient que le système d'exploitation externe, le hacker externe, aurait peut-être pu réussir à deviner les mots de passe.
Ah, mon Dieu, c'est tombé amateur.
Certes, mais je pense que là, cette fois-ci, on se doit de pas donner le blâme à Sony parce que je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent dans ce cas-ci. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'ils auraient dû faire avant, c'est-à-dire empêcher un compte d'essayer 12 000 fois de se loguer. Là, à un moment donné, tu le verrouilles puis tu donnes une pause de une heure avant de permettre d'essayer d'autres mots de passe. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est vrai qu'ils pourraient améliorer ça. Mais à la base, ils ont juste détecté qu'il y a eu des scripts qui se sont essayés à deviner des mots de passe puis ils ont juste verrouillé. Fait que c'est peut-être pas mal moins pire que ce que ça a passé comme nouvelle initialement.
Ah, ben, coudonc.
Ah, le sensationnalisme.
Ben voilà. Ben c'est sûr qu'avec la première attaque qu'il y a eu, dès qu'on aurait eu un petit feedback de ça, on l'aurait su tout de suite. Puis on n'a sûrement pas fini d'en entendre parler non plus. Alors voilà, ma dernière petite manchette, parce que je veux qu'on enchaîne avec vos sujets très intéressants. C'est, c'est Nissan. J'aime bien les voitures, en passant. Nissan qui a développé un nouveau chargeur pour les voitures électriques, comme leur modèle Leaf. Un chargeur de batterie qui devrait recharger la voiture en dedans de 10 minutes.
En dedans de 10 minutes?
10 minutes.
C'est pas juste un nouveau chargeur, c'est que c'est une nouvelle pile.
La pile est basée sur l'ancien modèle, c'est qu'ils ont changé les composantes en dedans. Ils ont changé les métaux conducteurs. Comme ils ont aussi changé, amélioré dans le chargeur la capacité des condensateurs. Donc, c'est que le courant va se conduire... une conduction, dans le fond, c'est ça.
Steve!
Allô!
Allô!
Oui?
J'ai une question pour toi.
Oui?
Ça va-tu faire exploser mon compte d'Hydro-Québec en 10 minutes?
Ben, écoute...
Ben, on n'est pas chargé à l'instantanéité de notre consommation au résidentiel. Au commercial, oui. En industriel, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu consommes a un impact sur le prix, mais au résidentiel, on est facturé au kilowattheure. Puis, c'est peu importe la vitesse à laquelle tu le consommes, la quantité d'énergie totale va coûter la même chose. Fait que si tu étends une charge sur 12 heures ou tu la compresses en une heure, en nombre de kilowattheures, ça va faire la même chose.
Ça ne sera pas le côté économique qui va bénéficier de ça, mais ça va être plutôt le côté pratique.
C'est vraiment une question de temps. C'est d'être capable de... Ben, je pense que le gros avantage, en fait, c'est même pas de charger à la maison parce que tout le monde a au moins plusieurs heures où que la voiture est stationnée. C'est plus de faire une charge sur la route. T'arrêtes à une station d'essence, tu fais Montréal-Québec, t'arrêtes à Trois-Rivières, tu prends un café, 5-10 minutes, pouf, l'auto est chargée, on continue. Ça, c'est génial.
C'est exactement. Fait que...
Je vais faire mon avocat du diable, mais moi qui ai un char à gaz, ça me prend 5 minutes. Ça me prend même pas 5 minutes de gazer mon char, payer, je suis parti.
Absolument.
Donc, on a encore un petit peu de chemin à faire. Je veux dire, 10 minutes, pour moi, c'est impressionnant.
Des fois, je vais dire juste une file
d'attente. Ben, comme tu dis, Bruno, c'est impressionnant, certain, parce que les chargeurs qui sont sur le marché, en test, si vous voulez, un peu partout, ont une limite de chargement, un temps limite d'environ 8 heures pour une charge complète pour le véhicule. Tandis que là, tu passes de 8 heures à 10 minutes. Déjà là, c'est quand même pas mal.
Je veux dire, en 10 minutes, là, tu charges un char. Mon téléphone ne se charge pas en 10 minutes.
C'est ça, exactement.
Good job, Nissan. Good job.
Pour les
c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est une super belle percée parce que c'est probablement la plus grande critique que les gens continuent d'avoir des voitures électriques, c'est le temps de la charge.
On parle de voitures complètement électriques.
Oui, c'est ça. Contrairement, mettons, la Volt, que c'est pas vraiment grave si la charge est longue, parce que de toute façon, quand tu l'es épuisé, tu continues ton trajet à l'essence, puis quand tu arrives à un autre point de charge, tu retournes à l'électrique. La Leaf, si t'en as plus, t'en as plus.
Mais c'est ça, mais je suis vraiment content de voir que les gens se concentrent à essayer d'avancer le développement là-dedans. C'est un peu comme la compagnie, je crois que c'est Audi qui avait développé un rechargement, en fait, un petit rechargement éclair, si tu veux, un boost d'énergie capté lors du freinage du véhicule. Un véhicule qui freine dégage tellement d'énergie qu'ils ont réussi à capter cette énergie-là puis l'envoyer vers la recharge de la batterie du véhicule. Mais je pense que
Ça, toutes les autos électriques hybrides maintenant le font.
Ah oui, tu vois.
Hey, imaginez maintenant, là, tu sais. Si on fait quelque chose, excusez-moi. Si on fait quelque chose, pendant qu'on roule, on met une dynamo dans le char. Pensez-y 30 secondes. Est-ce qu'on vient de découvrir comment faire de l'énergie perpétuelle?
Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai mis un ventilateur en avant de mes éoliennes, puis j'ai plus de problème.
Mais pour ceux qui s'intéressent, comme j'allais dire, le chargeur se détaille à 13 000 $. Alors,
je pense que c'est pas un cas d'usage personnel, mais plus comme une belle opportunité d'affaires pour quelqu'un qui veut se partir une station de recharge à un coin de rue populaire ou sur le bord d'une autoroute.
Les propriétaires de stations-service. Oui, allô? Excusez.
Allô?
Oui, j'ai entendu Bruno parler en même temps que moi, puis on l'a perdu, je pense.
Oh non. Ben, je me suis mis sur mieux.
Ah, ben bonjour.
Pas normal.
Ok.
Mais, les joies du direct.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Ou quelqu'un qui veut se partir une flotte de véhicules électriques pour quelques compagnies que ce soit, ça peut être...
San Pilou, sur le chat de Ustream, apporte quand même un bon point. Les batteries l'hiver,
oui.
On s'entend, c'est pas ce qu'il y a de plus vergeux. Donc, si, mettons, on laisse notre char dehors à moins 20, avec la batterie électrique, déjà que notre batterie pour partir le char a tendance à perdre sa charge, est-ce qu'il va falloir qu'on laisse le char plugué en tout temps, si, mettons, on... T'sais, parce que le concept d'une charge électrique, c'est qu'on n'aura pas une borne électrique sur le bord de la rue. Si, mettons, moi, j'habite sur le plateau, que mon char, il est parké à X nombre de rues, comment je fais pour être sûr que mon char va partir le lendemain? Tu sais, c'est quand même un bon point que San Pilou apporte.
Absolument, c'est vrai que ça sera pas pratique. On s'entend que ces véhicules-là sont pas développés dans le Grand Nord non plus.
Ça continue d'être un usage relativement, je dirais pas exclusif, mais plutôt une niche. C'est, il faut tomber dans le pattern où ça fit exactement selon tes besoins. La distance fait l'affaire, les temps de charge font l'affaire, tu as la place de stationnement, tu peux mettre le chargeur. T'sais. Si tu as tous les critères, là, oui, tu peux bénéficier des avantages qu'offre une auto toute électrique présentement. Pour les autres, c'est encore malheureusement beaucoup plus pratique qu'un auto à essence.
Et voilà, et ça prend le budget aussi.
Mais ça, c'est des petits changements. Au fil du temps, à un moment donné, à côté des bornes de stationnement dans les rues, il va y avoir des chargeurs partout, dans les parcs. Ça va
reste à savoir aussi si l'électricité va coûter plus cher que l'essence. Parce que là, présentement, on s'entend qu'on pense peut-être que l'essence, ça va nous coûter moins cher avec l'électricité. Mais ça dépend à quel point ils vont la vendre lorsque ça va être global pour tout le monde.
Ouais, ben c'est sûr. Ça, on va se retrouver avec une guerre de l'électricité, puis le pétrole va se donner. J'aime ça. Alors voilà, je pense que c'est un wrap-up de mes petites manches.
C'était les manchettes avec Steve. Tout, tout, tout.
Tab, ouais, budget, j'aime ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer avec sa chronique?
Je pourrais commencer. On pourrait commencer avec des jeux vidéo maintenant qu'on a parlé de grosses technologies importantes. Voici parlons de plaisir, de joie et de bonheur.
Alors, mesdames et messieurs...
Mais parlons aussi de comment on dépense notre argent avec les jeux vidéo. Parce qu'il y a une tendance qui commence à s'installer et moi, je trouve cette tendance particulièrement intéressante et le fun. Dernièrement, les gros détaillants de jeux vidéo... Je parle de GameSpot, de EB Games, de Game je cherche le nom, c'est vraiment fantastique. United Kingdoms.
Okay,
le nom en anglais, je m'en excuse. Le Royaume-Uni. Écoutez, c'est très très simple. Ils sont en train de perdre de l'argent. Et pas rapidement, pas d'une manière très alarmante, mais ils sont en train de perdre de l'argent. Je crois qu'il y a un rapport financier des États-Unis qui rapporte que la vente de jeux vidéo au détail, et ça, ça inclut Walmart, ça inclut tout le monde, ainsi qu'EB Games, que eux, ça les frappe plus fort, a droppé de 5% en 2010. C'est pas énorme, c'est pas alarmant, je veux dire, ça peut être une phase, mais ce qu'on remarque, c'est que par rapport aux ventes qu'on dit solides, aux ventes physiques, les ventes digitales ont augmenté de beaucoup. Quand je dis de beaucoup, je vais prendre l'exemple de Steam qui a carrément relancé le monde du jeu de PC. Parce qu'on s'entend, là, ça dépend s'il y a bien du monde qui joue au jeu de PC. Jonathan, corrige-moi, mais là, 4-5 ans, me semble, avant que Steam devienne la grosse machine qu'il est en ce moment, il me semble que les jeux de PC, quand on allait dans ces magasins-là, ça se limitait à The Sims ou Nancy Drew et ses mystères ou, je sais pas, Take Care of My Baby, Please. T'sais. C'était pas quelque chose d'absolument incroyable. C'était pas une grosse expérience. C'est sûr qu'il y avait des jeux comme Doom 2, Doom 3, mais on s'entend, il était comme dans le fond du magasin, dans la section noire où c'est que personne va, puis qu'il y a peut-être une personne louche qui t'attend dans le coin.
Ça, c'est en excluant les gros titres à succès évidents comme les Call of Duty et les Battlefield.
Ça vient de moins en moins en boîte. Hein? Ils sont en train de faire le transfert vers les distributeurs digitaux, eux aussi, de toute façon.
Ouais, c'est ça. On pense à EA qui est en train d'arriver avec Origin, et etc. et blablabla.
Ouais.
Ça. Il y a une autre chose que je veux apporter, c'est un mouvement de Ubisoft. Dernièrement, ils ont sorti un jeu sur seulement les consoles virtuelles. Si je me rappelle bien, c'était From Dust.
From Dust, ouais.
From Dust, qui n'a pas de format physique. Et leur prochain titre, I Am Alive, va être aussi seulement vendu digitalement.
Mais celui-là avait été prévu en version physique, si je ne me trompe pas.
Et ils ont carrément laissé ça tomber. C'est parce qu'il y a aussi des coûts qui sont associés à ça. Il faut créer des CD, il faut envoyer le stock au magasin. Puis je veux dire, moi, en général, si je serais un manager de compagnie, hey, je sauve de l'argent en créant pas de disques et des boîtes. On va le faire. Puis moi, je suis vraiment impressionné à quelle vitesse on commence à avancer. Je veux dire, il y a plein de petits développeurs qui utilisent en ce moment Steam parce qu'ils n'ont pas besoin de trouver une personne pour publier leur jeu. Ils peuvent le faire directement via Steam, qui est, oui, c'est une personne qui publie, mais c'est autrement plus facile. Tu n'as pas besoin de signer des contrats, de t'engager à payer tant. Oui, tu payes un montant forfaitaire par jeu, mais tu n'es jamais dans une situation où c'est que tu vas perdre de l'argent. Tu ne signes pas un gros contrat que, en bout de ligne, ben, ton jeu n'a pas assez vendu, on a trop de retours, donc tu as perdu environ, je ne sais pas, 50 000 $ C'est les ventes digitales en ce moment sont en train de supplanter, mais ils sont en train de dépasser. J'ai un autre rapport ici qui rapporte que la vente de format physique a baissé de 2 milliards de dollars, est arrivé à 1,85 milliard de dollars selon la grosse agence américaine NPD, et les revenus par les ventes digitales ont monté à 1,74 milliard de dollars. C'est du gros cash.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Mais quand on fait juste... Oui, vas-y.
Mais on s'entend, là. En ce moment, ils sont pas mal égales, mais on voit que la tendance est en train de shifter vers le digital et moins vers ça. Et moi, ce que je veux parler à soir, ben, je vais te laisser emmener ton point, Laurent, mais le point ici, c'est les magasins qui sont spécialisés là-dedans, combien de temps ça leur reste? Moi, je leur donne 5 ans avant qu'ils commencent à dire « Oh, oh! »
T'es pas généreux!
Ça sent le blockbuster! »
Ben, c'est ça. Votre super club Vidéotron puis votre blockbuster du coin, là, ben, c'est la même chose qui s'en vient avec EB Games puis les autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui a lancé beaucoup, ce qui a vraiment aidé le consommateur à shifter son mindset, les anglicismes en arrêt de l'autre, pour essayer du média électronique plutôt que du média physique pour son contenu. C'est beaucoup Apple avec le premier iPod, avec son iTunes Store. Ben, en fait, pas le premier iPod, mais le premier iTunes Store qui est sorti quelques années plus tard,
ouais,
qui a permis au monde enfin de commencer de façon facile et peu coûteuse d'avoir de la musique électronique plutôt que des CD. Puis deux, encore une fois, la même gang, Apple, parce que avec les iPhones, les applications, ça a démarré des milliers, même des dizaines de milliers de développeurs de jeux, d'applications, de logiciels qui sont tous lancés là-dedans en faisant des petites applications chez eux sans investissement ou presque, puis à pouvoir les distribuer puis devenir millionnaire, ben pas millionnaire, mais vendre des millions d'applications plutôt très, très, très facilement. Pensez à Angry Birds qui est du...
Ben, ça, c'est le success story.
C'est le success story, mais il y en a beaucoup des success stories.
Il y a Angry Bird, il y a les gens qui ont créé Pocket God et Doodle Jump qui ont... Écoute, là, ils se sont fait de l'argent sans bon sens. On s'entend, ben, leur jeu, là... On s'entend, si on se rappelle du dernier podcast, c'est le genre de jeu qui coûte pas extrêmement cher à faire. Là, je pense qu'il y a 3-4 personnes qui ont travaillé dessus de top. Tandis que quand on parle là, des gros investissements de 5 millions de dollars, combien passe dans le marketing, dans le fait que faut faire les CD, faut faire les boîtes, faut engager un artiste. Ben, il y aura toujours un artiste pour faire les boîtes, tout ça, mais t'as pas besoin de te casser le coco pour rendre une boîte intéressante. Tandis que tu arrives sur le storefront de mon anglicisme à soir, tu arrives sur le magasin de. Tu arrives sur le magasin Steam et tu as tout de suite. Mais la force de Steam qui fait que les magasins en ce moment sont pas là, et c'est ça que je vais apporter, parce que quand tu arrives sur le magasin, oui, tu as les jeux à 45$ plus, mais premièrement, les jeux coûtent 10$ de moins que si tu les achèterais en format physique. C'est déjà comme « Oh my God! » Deuxième affaire, les spéciaux sur Steam. Est-ce que...
C'est fou là, les rabais qu'il y a. Des fois, là, j'ai acheté Magica avec des amis à quelques dollars, puis après ça, le pack pour 1$ Vietnam, puis c'est tout le temps des promos comme ça. Portal, qui a pratiquement rien coûté, ils font... c'est fou, toutes les promos qu'ils font, puis ça aide beaucoup à diffuser des jeux que les gens n'oseraient pas acheter. Mais là, tu logues sur Steam, tu vois ça. Oh, 4$, un nouveau jeu. Hey, let's go, je vais l'essayer.
Il y a une autre chose. Il y a une autre chose aussi. Il y a le Humble Indie Bundle. Il y en a un qui roule en ce moment. C'est le... Je pense Jonathan pourrait me pogner là-dessus. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Mais ce Humble Indie Bundle-là, c'est tu donnes de l'argent à la charité, puis tu perds pas d'argent parce que tu es obligé de shipper ton jeu ou des affaires en même. C'est tous des jeux de développeurs indie qui ont utilisé cette plateforme-là, Steam, par occurrence, pour vendre leurs jeux. Puis c'est une autre chose que Steam apporte, c'est l'explosion des indies. C'est absolument incroyable. J'ai jamais vu autant de gens avec des idées fraîches, des idées intéressantes. C'est parce qu'on s'entend, là, sur console, j'aime les jeux sur console, puis je vous en cacherai pas, je suis un petit peu tanné, parce que Zelda, ça revient tout le temps au même. Gears of War 1, 2, 3, les graphiques sont meilleurs, oui. Le jeu, tu te caches encore en arrière d'un montant en béton pour éviter de te faire ramasser. L'histoire est écœurante, je l'avoue, dans le même jeu. Donc, eux autres, ils apportent des idées intéressantes. Là, je parle de Notch qui a vendu son jeu à travers son site web Minecraft. Je veux dire, là, il n'a pas eu besoin de vendre ça en boîte, Minecraft. Là. Il est rendu à... Si je regarde les derniers chiffres, je pense qu'il est rendu dans les millions. Il est rendu à 3,7 millions de ventes.
C'est incroyable. C'est le plus gros success story du jeu alternatif qui se fait.
Absolument.
Et non seulement ça, il y a 14,8 millions de personnes qui se sont inscrites sur le site pour au moins essayer le démo. Hey, 14 millions, c'est qui voudrait ça avoir? Écoute, moi j'aimerais ça que 14 millions de personnes jouent à mon jeu. Là. On parle de vieux jeux de Game Boy, là, 14 millions. Là. C'est comme le
premier. J'ai quand même plusieurs commentaires sur Twitter, puis ouais, je te dirais que c'est peut-être des nostalgiques, parce que la majorité des commentaires que j'ai, c'est que le monde aime mieux les jeux en boîte que le téléchargement. Et j'ai Marc Cross qui dit ici que c'est comme les livres numériques. Il y a des avantages dans les deux cas. T'sais, c'est sûr que tu peux en apporter plus, mais en même temps, c'est toujours le fun d'avoir un vieux livre dans les mains.
Ben absolument.
Ouais, c'est ça, hein, comme Kevin il vient juste de mentionner, là, je viens de le voir parce que c'est un super bon point. Les jeux physiques, tu peux les amener puis les prêter à des amis. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je veux dire, moi, j'ai des amis au bureau, là, ils s'amènent continuellement des jeux. « Hey, essaye ça, c'est vraiment bon. Ah oui, moi, je t'amène une copie. Hier, il y a quelqu'un qui m'a amené Dark Souls. » Je suis comme « Ah, oh, c'est tellement tough. » Mais ça, ça se fait parce que c'est des médias physiques. Si c'était tout sur des connexions, il faut absolument avoir le compte de brancher, puis là, tu as limité à un nombre de machines, ça devient beaucoup plus difficile de prêter des jeux ou de faire des échanges comme ça.
Ah, c'est encore drôle avec Steam. Tu peux tout simplement passer ton compte. La personne télécharge le jeu sur Steam.
Ouais, mais il faut le télécharger.
C'est pas nécessairement légal par le terme d'utilisateur, mais l'entente utilisateur. Mais on peut le faire. C'est juste qu'il y a des manières d'arriver. Parce que on va être franc avec vous, là. Il y a un gros phénomène qui commence à arriver sur les consoles, puis c'est les online pass.
Ah, c'est dégueulasse.
Mais c'est une manière de pouvoir continuer de générer de l'argent à travers des vieux jeux parce que chaque vieux jeu vendu par GameSpot, EB Games, justement, sont vendus par eux autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une maudite scène qui revient accompagnée parce que la
Ça devrait pas rien changer. Tu sais, si le jeu, une fois qu'il a été fait, il a été acheté, le premier, il a fait l'achat du jeu, puis c'est fini. Si le jeu il se revend 4 fois usagé après, c'est pas de l'argent que moi, je considère que le créateur original devrait avoir. Par contre, quand le créateur original continue de faire du contenu, continue de faire des patchs, puis qu'il entretient des serveurs en ligne pour faire du jeu multiplayer qui coûte extrêmement cher, ça, c'est pas gratuit, puis il faut qu'il y ait une redevance, d'après moi, que les autres joueurs qui viennent s'insérer dans la loupe, ils amènent aussi leur participation
absolument,
au coup. On se souviendra que dans l'édition mensuelle du podcast Geekbécois, je pense que dans notre premier épisode d'ailleurs, ça a été mon prix citron que j'ai chialé là-dessus. Puis en lisant, puis en discutant avec les gens, je réalise que c'est seulement de la business. C'est une façon pour eux de faire de l'argent.
C'est de la business parce que les compagnies, là je parle de EB Games puis GameSpot parce que je les ai vraiment dans le pip. C'est que ces gens-là, ils rachètent ton jeu pour... Tu sais, mettons, toi, t'as acheté un jeu à 50$. Ils vont te le racheter à 10$, mais quand tu vas le retrouver sur la tablette, oh my God, il est rendu 40$. Ils viennent de se faire 30$ sur ton dos, de un. De deux, ils vendent le jeu au presque même prix. Puis, il n'y a pas... Tu sais, je veux dire, pas une scène aux développeurs, tu sais, du monde comme Activision... Bouhou, vous nagez dans de l'argent. Vous nagez dans de l'argent. Mais quand il y a des petits développeurs qui lancent leur jeu sur console et qui se disent « Hey, moi j'ai des couilles, là, je vais me lancer là-dedans, j'ai mon distributeur et tout », puis ils se font chafeter en bout de ligne parce que le monde, il n'achète pas son jeu. Ben, ils ont acheté son jeu initialement, mais après ça, là, au bout de 4-5 ans, ben, le jeu continue de se retransférer. T'sais, je donne un exemple. Une copie Mint de Chrono Trigger. Tu sais, là, on s'entend, là, dans son emballage, Chrono Trigger au Super Nintendo.
Ouais, ouais.
Ça va pas loin de 40 000 $ à cette heure, parce que c'est rare. Là, je parle pas que tous les jeux vont devenir de même. Il y en a que c'est juste, on le donne à quelqu'un parce que c'est pas bon ou j'ai pas assez joué.
Mais
tu sais, je veux dire, le 40 000 $ là, la compagnie a zéro redevance. Mais ça, je pense que Joe va mieux en parler.
Mais là, on s'éloigne un peu du sujet parce que tu parlais vraiment des distributions digitales puis les distributions physiques. Les réactions qu'on a eues sur Twitter tantôt, la plupart des gens préféraient les versions physiques. Moi, je pense que là-dedans, il y a un gros sentiment de sécurité. Bon, j'ai le jeu en physique, fait que si les serveurs en ligne devaient lâcher ou quoi que ce soit, j'ai mon jeu physique, blablabla. Ça, il y a une discussion à partir là-dessus à un moment donné, c'est officiel. Mais je peux comprendre autant ceux qui aiment avoir la version physique du jeu que ceux qui le téléchargent. Justement, avec Steam, moi, j'ai commencé à downloader certains de mes shooters auxquels je joue. J'aime bien le principe que si je peux remettre mon ordinateur ou quoi que ce soit, Steam, dès que j'installe Steam, m'installe tous mes jeux.
Tout sort, puis t'es en business.
Tout est à jour, tout est super bien organisé. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer le raccourci puis aller tuer du monde à gros coups de batte de baseball. Fait que voilà, c'est ça.
Mais il y a des différences aussi entre le digital qu'il y a sur les consoles et le digital via Steam. C'est que Steam offre le service de backup, justement. Tu downloads Counter-Strike Source, qui est vraiment gros, qui est peut-être 4.8 à 6 gigs. Tu le prends, tu peux faire un backup sur l'ordinateur, tu as quand même une copie physique. Tu as besoin d'être connecté sur Steam pour aller jouer, mais tu l'as pareil.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est un avantage. Puis, il y a quelqu'un d'autre aussi sur Twitter, j'en ai lu un intéressant. Oui, Monsieur Fred Desmanches qui dit « Essaye de, dans 10 ans d'aller redownloader Oblivion sur Xbox Live quand les serveurs vont être fermés. »
Absolument.
C'est un excellent point, sauf que encore là, ça c'est ouvert à discussion pour la raison très simple. Il y a Oblivion, il y a Skyrim qui sort dans quoi, un mois, deux mois? Pourquoi tu jouerais pas Skyrim? Ça va être le même principe. Je veux dire, les jeux, c'est sûr qu'il y a des jeux qui sont plus vieux, qui sont intéressants quand même. Personnellement, je joue encore à Mega Man X qui était sur Super Nintendo. C'est normal.
Oh,
c'est
yes! Pratique.
Sauf que, il y a toujours des versions nouvelles qui vont sortir. Mega Man, c'est un peu limité, mais si on prend vraiment l'exemple de Oblivion, Skyrim va sortir. Après Skyrim, si c'est un gros hit, ils vont continuer à prendre des jeux comme ça, en faire des versions meilleures, puis continuer à les ressortir. Fait que la nécessité d'avoir une copie physique est de moins en moins là.
Oublie pas que des jeux comme Oblivion puis ces jeux-là, là, dans 10 ans, là, c'est exactement ces jeux-là qu'on va retrouver dans les petits carousels à 4$ dans les pharmacies. Là.
Fait que, ouais. Effectivement.
Fait qu'à quelque part, ils vont être
disponibles. Carousel à 4$ dans les pharmacies. Ouais. Oh okay. Yeah!
Mais quand je donne un exemple, là, ceux qui ont peur, je donne un exemple. Admettons Steam. Steam arrête d'exister. Votre portfolio de jeux, le trois quarts des jeux, là, on parle pas de on live. Qui est carrément un
c'est du cloud gaming, c'est pas la même chose.
C'est carrément dans le nuage. Là, on parle de vous installer la copie physique du jeu. Et je suis pas mal sûr que les gens chez Valve qui ont fait Steam ont pensé que, ben, écoute, si notre réseau n'existe plus, ce que tu as payé, tu le gardes. Là, tu pourras pas. Tout bad, on repart avec tes jeux.
Ben, écoute, c'est ça. Écoute, moi, le
système d'activation qui font qu'à un moment donné, même si la compagnie, même si t'as le média physique puis la compagnie disparaît, t'auras peut-être pas nécessairement la chance de rejouer ton jeu dans 5 ou 10.
C'est ça, la gestion des droits digitaux est assez louche pour certaines compagnies. Steam essaie le plus possible de pas embarquer dans ce game-là et je les respecte pour ça, mais je donne un exemple de Assassin's Creed 2 sur PC. Fallait que tu sois connecté en tout temps sur un ordinateur pour connecté sur Internet pour jouer, ce qui était absolument ridicule. Et il y a des hackers qui ont prouvé leur point en disant « Hey Ubisoft, tes serveurs, on le mange en ce moment. »
Oui, il y a certains jeux d'Ubisoft qui utilisaient cette technologie-là. Je me souviens de, je pense que c'était Shaun White Snowboarding, c'était la même chose. Fallait que tu sois connecté sur ton compte Steam pour pouvoir jouer.
Je pense que tout le monde qui s'est essayé d'aller à ce niveau très élevé de sécurité, disons, là, de sécurité du droit, non pas sécurité comme telle, ils ont tous réduit un petit peu à quelque chose de plus raisonnable parce qu'effectivement, c'est juste trop. Là. Quand un serveur tombe down et que tu as des centaines de milliers de joueurs qui sont kickés out du jeu, là, c'est pas drôle.
Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu donnais 5 ans aux détaillants sur la rue.
5 ans avant qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils vont probablement se ramasser dans la même eau chaude que Blockbuster en ce moment, qui viennent de fermer toutes ses succursales canadiennes et qui est sur le bord de fermer aux États-Unis à cause de Netflix et toutes les distributions digitales. Ça s'en vient, je vous le garantis. C'est pas 5 ans, c'est peut-être 10 ans, mais c'est dans un futur proche, on va le voir arriver, à part si vous êtes sur votre lit de mort, et je m'en excuse, je suis désolé.
il y a Marc Cruz sur Twitter, sur le hashtag GeekBécois, qui amène un bon point que je suis sûr que Jean-François pourrait nous en parler. Les éditions spéciales, quand tu achètes une version physique d'un jeu.
Oui, je suis un grand collectionneur des jeux de collection, on peut dire, là, des éditions de collection. C'est vrai que c'est intéressant, mais lorsque tu achètes une copie digitale, comment ils vont faire pour les sortir, ces copies de collection-là, dans le fond? Là?
Fait que ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une imprimante 3D chez vous.
Oui.
Puis ça va falloir que tu t'imprimes en 3D une statuette.
C'est encore drôle parce qu'il y a un jeu sur Steam qui se vend digitalement, mais qu'au niveau de... On vient de perdre Laurent.
oui, Laurent, il va revenir. Il y a des difficultés avec son
problème. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est Magic. Malheureusement, c'est juste aux États-Unis pour l'instant, pour rester je pourrais dire on the safe side, eux offrent une carte Magic unique au jeu. Mais tout ce que tu as à faire, c'est entrer ton adresse, ils vont te l'envoyer. D'après moi, c'est ça qui ça va devenir. C'est que si tu as des goodies physiques à avoir, c'est comme, je sais pas, je donne un exemple, un bus de Marcus Phoenix qui fait « Yeah! » Ben, ils vont te l'envoyer par la poste, free of charge, tu as payé le frais d'extra qui était lié à ton édition du collectionneur. Il y a aussi l'autre chose en parallèle qui vient avec ça, c'est que tu as des items dans le jeu que juste toi, t'as, parce que tu as acheté l'édition digitale. Donc, tu peux avoir, je sais pas, le gun doré ou le masque spécial.
Quelque chose d'exclusif à la copie digitale, c'est ça?
Mais ça, je trouve ça plate, un jeu, parce que quand le jeu devient moins populaire, tu te ramasses avec des items que tu vois pas sur ton bureau. Tu sais, comme, je vais mettre en opposition deux jeux que personnellement j'ai achetés. J'ai acheté Age of Conan en Collector's Edition, j'ai acheté Bioshock en Collector's Edition. Ben, mon Big Daddy en petite air cuite, je l'ai encore sur mon bureau. Mais mon petit éléphant que je peux utiliser comme mante dans Age of Conan, je le vois plus, là, je m'en sers plus.
Ah, c'est ça. Alors, voilà, fait qu'on verra. On verra avec le temps ce qui va se passer de ces magasins-là. Déjà, on voit une tendance. Ils vendent plus seulement des jeux. Ils vendent des accessoires, des vêtements, tout ce qui peut entourer le monde du jeu vidéo et de la culture geek en général. Fait que déjà, on voit qu'il y a comme une tendance à essayer de rester ouvert et de vendre un petit peu plus de stock varié. Fait que on va voir. Si dans 5 ans, c'est encore ouvert, Bruno, ben je descends chez vous puis je fais...
Bring it!
Voilà. Alors, c'était ça pour la chronique de Bruno. Merci beaucoup, Bruno. C'était très intéressant. Comme tu peux voir, on a participé à outrance. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait enchaîner avec son sujet?
Wow! Je crois qu'il y a... je ne me souviens jamais de son nom. Je parlais le petit nouveau, là. Le petit bleu.
Ah, Jonathan! Le petit nouveau.
Jonathan.
Le petit nouveau, c'est plus une question philosophique. Là. C'est pas vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que la semaine passée, on a vu une autre réédition de Chrono Trigger qui est sortie sur PSN. On a vu aussi, j'ai vu en nouvelle, entre autres, que Resident Evil 4 puis Codename Veronica X vont ressortir aussi sur PSN. Puis ça me faisait juste penser. Où est-ce que vous tenez, vous, en termes de réédition de vieux jeux? Tu sais, exemple, justement, Chrono Trigger, Resident Evil, des choses comme ça. Moi, personnellement, comment je vois ça, c'est que c'est bon parce que ça donne un aperçu un peu plus, remasterisé, artistique, plus belle. Là. Ça donne un aperçu quand même des jeux que nous, on jouait dans notre temps, tu sais, pour les vieux versus les jeunes un peu. Là. Donc, je voulais juste savoir ce que vous pensez là, de ça.
Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça génial. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est que en plus de nous rapporter de la nostalgie, nous rapporter des bons souvenirs, on a des. Ça nous est amené sur des supports qui sont un petit peu plus fiables. Parce que par exemple, les cartouches du Nintendo original, il n'y en a plus beaucoup qui ont été assez bien préservées pour fonctionner super bien aujourd'hui. Donc si ça vient sur un CD, si ça vient sur n'importe quel autre support, moi j'aime ça. Fait que ça me ramène une nostalgie que je sais que je vais être capable de jouer quand je veux. Et en plus, c'est le plaisir de le faire découvrir à une nouvelle génération de gens. T'sais, pour nous autres, des jeux comme vraiment rétro, là, je parle de Pong ou Pac-Man, c'est rien d'autre que quelques petits pixels qui se promènent. Mais pour nos parents ou pour les gens un peu plus vieux que nous, c'est comme une merveille de la technologie. Fait que ce sentiment-là, selon moi, va toujours se présenter à chaque fois qu'une nouvelle réédition d'un jeu va sortir. Les adeptes originaux du jeu vont capoter ben raide, vont voir les nouvelles avancées technologiques, vont surtout retrouver le plaisir de jouer au jeu qu'ils aimaient, puis ça va donner l'occasion de représenter ce jeu-là à des générations qui ne l'ont pas nécessairement connu originalement. Fait que moi, je trouve ça
super. Ou avoir des sauvegardes à des endroits où c'est que tu n'en avais pas avant. Je donne un exemple, Sonic 2. Il n'y avait pas de sauvegarde. Hein. Fallait que tu te passes d'une shot le jeu. Sonic 1, même affaire. Maintenant, avec les versions remasterisées, si, mettons, ça ne te tente pas de continuer le jeu, tu n'es pas obligé de recommencer au début. Tu peux simplement dire, « OK, bon, ben je t'ai rendu là, je vais continuer. » Je ne sais pas vous rappelez, mais dans Sonic 2, là, quand tu étais rendu dans... si je me rappelle bien, le nom de la zone, c'était Metropolis Zone. Hey, c'est 4 morceaux, puis t'étais au moins pogné, là. T'étais au moins pogné une demi-heure là-dedans, là. Facile, là, à recommencer.
Moi, les jeux qui n'avaient pas de sauvegarde, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a vraiment déçu, puis c'est ça qui me redonne le goût de jouer à des jeux de console. Moi, un moment donné, j'étais plus capable, là, mon cousin qui passait tout le temps Mario 1 complet sans jamais mourir, puis moi qui avais de la misère à finir deux tableaux sans vouloir pitcher la manette dans la TV, ça me prend des sauvegardes. Moi, j'étais un gars à sauvegarde.
T'es un gars de sauvegarde,
toi. Oui, je fais des backups aussi.
Ça paraît quand on te voit. Non,
ça mais ça, ça apporte d'autres points aussi. Je veux dire, il y a des jeux qui sont remasterisés un peu à moitié. Il y en a d'autres qui sont refaites complètement puis c'est des chefs-d'œuvre. Mais il y a des choses, des fois, qui vont décevoir. Comme personnellement, bon, moi, je suis un grand fan de Resident Evil. Je l'ai joué sur la GameCube, le PS2, la Wii. Et quand je suis arrivé à la Wii, ça m'a surpris parce qu'ils ont essayé d'intégrer un peu les mouvements dedans. T'sais. Pour viser, ça va super bien. Pour les scènes d'action où il y a des boutons random qui apparaissent et qu'on faut faire la bonne combinaison, sinon on meurt ou on mange beaucoup de dégâts, ben c'était des choses qu'on pouvait faire tout en même temps. Genre, c'était bouger la Wiimote vers la droite, puis peser sur deux pitons sur le nunchuck. Mais on peut tout faire ça en même temps, puis peu importe ce qu'on fait, on a la combinaison, ça enlevait la difficulté de la chose. Moi, ça m'a déçu un peu. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des avantages pareils.
Quand ça vient, toucher au gameplay, là, ça, c'est de valeur. Quand ça vient toucher à des valeurs aussi pures que le gameplay, c'est le principal du jeu, ça, je trouve ça dommage un peu. Excuse-moi.
Mais ça se contrebalançait bien parce que, je veux dire, avoir le mouvement de viseur avec la Wiimote, c'était naturel. Ça aidait à faire des beaux tirs, ça aidait à faire des bonnes scènes d'action avec les coups de poing, les punches pour économiser les balles. Ça, c'était génial. C'est juste quand tu arrivais vraiment dans les petites scènes d'action pour te sauver la vie, mais là, tu faisais n'importe quoi, puis ça marchait, c'était bon. Mais si on regarde, un que j'ai trouvé, j'ai adoré ce qu'ils ont fait, Zelda. Ils ont intégré les mouvements du 3DS dedans pour Ocarina of Time, c'est bien. La nécessité d'avoir un menu qui marche avec le touchscreen, personnellement, bon, ça m'a pas trop allumé, puisque tout le jeu se joue avec la manette au complet. Donc, quand tu arrives pour choisir des items, ça se fait tout croche. Tu as besoin de sortir ton petit stylus. C'est pas optimal.
C'est pas optimal, mais en même temps, moi ce qui me tape, honnêtement, c'est énorme. Je veux dire, Ocarina of Time, ça a été un remaster. Le jeu est ridiculement plus beau sur 3DS. Mais il y a du monde, et je donne un exemple justement à Chrono Trigger. Est-ce que vous avez vu des changements dans le jeu? Ou c'est encore le bon vieux format Super NES, bien ordinaire? Moi, j'aimerais ça qu'ils prennent Chrono Trigger et qu'ils leur donnent le traitement de luxe qu'on ait. C'est parce que c'est le même jeu du Super Nintendo qu'on connaît et qu'on aime. Mais j'aimerais ça qu'ils fassent le traitement, qu'ils changent la musique, qu'ils changent les graphiques. Tu sais que pour les vieux de la vieille, là, on fasse oh, wow!
Que tu
pour
reconnaisses,
les jeunes, ça fasse ça. Oh, wow!
Que tu t'sais, reconnaisses que certains éléments, mais que ça soit mis à jour pour intéresser une plus grande foule.
J'ai Marc Rose qui dit qu'ils ont annoncé leur édition le Leisure Suit Larry.
Leisure Suit Larry! Oh,
c'est tellement le fun. J'ai adoré ce jeu-là.
Alors it's all about the boobies.
Ben oui, les pixels avec une petite barre noire sensor, là. J'avais vraiment pas l'âge de comprendre les questions au début qui étaient supposées d'essayer de figurer si j'avais l'âge, mais j'ai réussi à rentrer par l'âge, je sais pas comment.
Aïe, c'est tellement classique, ça. En HD,
les jeux de Sierra en texte, ça, c'était vraiment trop le fun. Mon préféré, ça a été Space Quest 3.
Ouais, je pense qu'on finit par en parler à chaque podcast, hein, de ces jeux-là.
c'est la nostalgie qu'elle nous prend, là. Mais au niveau des rééditions, c'est bien le fun, mais moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est qu'ils prennent le nom du jeu et ils refont des... Je donne un exemple. Zelda, c'est le fun de rejouer à The Legend of Zelda A Link to the Past, parce que, écoute, là, je veux dire, c'est qui a pas aimé ce jeu-là?
Moi?
Il y en a très peu. Tu fais ça pour me troller, hein?
Non, vraiment pas. Ben, c'est juste que je suis pas un amateur de Zelda en général.
Ben, c'est mais ça, mais je donne contre un exemple. Ou Mega Man, nous en prend la main. Puis qu'après ça, ils ressortent un autre jeu dans la même tranche, que c'est exactement la même affaire, mais en 3D. Je dis pas que il était pas excellent, mais je dis juste que ça commence à revenir au même. Tu rentres dans le donjon, tu ouvres ton coffre. J'ai l'item pour battre le boss. Bon, je trouve le plan, je trouve le compas. Bon, on va casser la gueule au boss, je ramasse whatever qui va unlocker l'autre truc pour faire avancer l'histoire, après que j'en ai fait comme 4-5, puis j'ai un cœur vide. que je peux remplir. Ben, non, ça, c'est un cœur vide que je peux remplir par après. Mm-hmm. Je veux dire, c'est... prenez 5 minutes, là, vous allez vous rendre compte que Zelda, c'est pas mal du pareil au même depuis, je dirais, le premier.
Ben, c'est bon
à
pour
part
les
le
habitués
deuxième,
de la
qu'on
licence.
Essayait de faire quelque chose de totalement différent, puis il était dans le champ.
Ça, ben, c'est bon pour les habitués de la licence, là, c'est merveilleux. Là. Hey, écoute, il y a un commentaire de Dark Team sur Twitter qui nous dit que lui, c'est un collectionneur hardcore de jeux. Attends un petit peu. Je suis un collectionneur, j'ai plus de 1000 jeux chez moi, des figurines, des consoles, des posters, des livres, etc. Pour ceux qui sont vraiment collectionneurs, donc au-delà de gamer, à la base, il y a une appréciation du jeu vidéo, c'est officiel, mais qui sont les collectionneurs, avoir la vraie version originale d'un jeu, puis pouvoir en posséder une deuxième version, pensez-vous que ça les intéresse autant que d'avoir seulement la version originale qui est, auxquelles sont liés comme des souvenirs et des valeurs un peu plus sentimentales?
Ça dépasse la cassette, elle marche encore.
Ouais. OK. Bon, c'est beau.
Non, mais ce que je veux... ce qui est bien, c'est que... Moi, écoute, ma cassette de Mario Kart au Super Nintendo, même si le jeu était horriblement dur... Je l'ai encore, là, je veux dire, je me rappelle encore des musiques, je me rappelle encore du fait que j'avais du fun. J'ai encore une manette de Super Nintendo qui traîne dans mon garde-robe, puis que quand je la retrouve, je fais comme « Hey, c'est ma manette de Super Nintendo », puis que là, ma blonde me dit « Hey, jette ça au vidange », j'ai dit « Non ».
Non.
Donc, je veux dire, quand t'as une collection, moi, écoute, là, quand j'arrive devant une collection de jeux vidéo, c'est la caverne d'Ali Baba, là, moi, je suis comme « Oh, wow, t'as encore un gun qui marche pour le vieux Nintendo. Je peux-tu le plugger? je veux dire, c'est comme si je retournerais en enfance. Là,
j'ai la canne à pêche de Dreamcast.
Écoute, là, ce qui nous manque, là, c'est des musiques de jeux vidéo. Là. Une canne à pêche de Dreamcast? T'avais vraiment ça?
Oui, avec le jeu Bass Fishing.
Mais voyons donc.
Oh, c'est absolument génial. C'est vraiment comme... Clairement, là, le précurseur de la manette de Wii, c'est la Dreamcast qu'il avait. Là.
Ah, c'est clair, mais c'était une canne à pêche.
C'est une canne à pêche, puis tu pêches des poissons, puis j'ai eu du fun pour des...
Ah, mais la Dreamcast, c'était tellement le fun comme console. Je trouve ça tellement dommage qu'on l'a perdu.
Sur son temps. Ah, avant qu'on clenche sur autre chose, il y a 100 pilous sur Ustream qui viennent nous dire un point particulièrement intéressant pour les remakes de jeux, là, c'est que ça vient principalement nous chercher pour la nostalgie, pas tant que ça pour le jeu. Puis ça, je suis d'accord. La plupart de ces achats-là, là, c'est du monde qui ont joué au jeu original puis qui veulent juste aller revisiter leurs souvenirs. Puis tant mieux, c'est cheap puis je suis partant parce que moi, la première affaire que je vais faire, c'est vouloir jouer à mes classiques King's Quest, Space Quest, Larry, tous les vieux jeux de mon enfance. J'aimerais ça pouvoir tous les refaire. En fait, la seule raison pourquoi je joue pas, c'est parce que ça marche plus sur aucun des PC que j'ai présentement. Même chose pour mon Nintendo. Il est dans une boîte en quelque part puis il n'y a plus de maudite cassette qui marche. Sinon, ben, je me pèterais bien un trip de Mario 1 ou Mario 3. J'aimerais ça rejouer à Mario 3. Le faux 3, pas le vrai 3.
Le faux... Ah! Celui qui... Ah ouais, ben celui qu'on n'est pas supposé connaître.
Laurent, oui, sont tous accessibles sur la Wii quand même.
Ouais, dans la virtuelle Wii.
Mais... On peut dire qu'ils sont en HD aussi, là, parce que c'est plein d'écrans. Même si vous avez un écran plat, 32 pouces ou 52 pouces, peu importe, là, ça fait l'écran complet. Là.
Parce que...
quand même bien. Là.
C'est ça, parce que... Dans l'ère des écrans de 40 pouces plus, je peux vous dire, pour être très très honnête, un Nintendo plugué dessus, pas beau.
Non, c'est ça.
C'est pas beau.
Quand la moustache de Mario est aussi grosse que ta face.
Ah non, les pixels sont juste comme trop dans ma face.
C'est ça.
C'est comme tu regardes, c'est comme ah, tiens, la moustache de Mario fait aussi grand que ma porte. Ouais.
Mais c'est un bon sujet que t'as amené, Jonathan, parce que pour qu'on soit fired up de même. Hey, fired up, attends un peu là. Pour qu'on soit.
C'est festival de l'anglicisme.
Hey, vraiment, excusez-moi. Hein. C'est le fun parce qu'en plus, on a un nom que c'est. un nom comme Geek Bécois, ça annonce absolument de l'anglicisme. Non, mais c'est vrai que c'est un bon sujet, puis ça, c'est quelque chose dont on pourrait parler tellement longtemps. Là. Avais-tu quelque chose à rajouter, Jonathan?
Pas vraiment, je suis en train de penser à ça, c'est que, tu sais, des choses un peu côté jeu compétitif, là, je sais pas si vous connaissez Dota, comment ça se jouait, pis tout, là, Mais c'est un mode de Warcraft 3. C'est en gros une équipe contre une autre. Puis ça aussi, c'est rendu une explosion folle. Si vous regardez le système PC, là, vous avez Heroes of New Earth qui en fait. Vous avez League of Legends qui en fait. Là, il y a Dota 2 que Steam va sortir avec Valve. Il y a un paquet de jeux comme ça qui joue. Puis c'est toujours
il y a le mode Dominion qui s'en vient pour League of Legends.
Il est sorti, puis ça joue vraiment différent. C'est comme Aratibassin sur World of Warcraft. C'est la même chose.
C'est mais capture les points.
C'est que tu as toujours des petits jeunes là-dessus qui vont venir, puis là, ils ont fait un bon coup. Ils vont venir t'insulter, puis « Ah, t'es pas bon! » Ça fait toujours drôle. Ça fait toujours drôle de venir dire... Tu sais que moi, j'ai joué à la map originale sur Warcraft, là, ce que c'était avant là, de devenir un jeu. Ben moi, je jouais à ça. Là. Toi, t'étais même pas en âge de connaître Warcraft 3.
Moi, dans mon temps, là, on jouait au jeu comme ça. Écoute, là, encore aujourd'hui, quand tu joues à World of Warcraft, là, on s'entend, ça fait 5 ans qu'il existe ce jeu-là, là, puis on commence à devenir vénérable. Là. Moi, je peux maintenant le dire, moi, dans mon temps, ça roulait de même, puis c'était dur. Parce que, écoute, là, c'est pareil pour tous les jeux. Quand il y a du monde qui joue à Super Mario ou à New Super Mario Brothers, ils disent ah, c'est donc bien dur! Moi j'ai dit, moi dans mon temps, là, c'était autrement plus dur que ça. Les champignons étaient empoisonnés.
C'était tough dans mon temps jusqu'à temps que mon cousin arrive avec un Game Genie puis que là, hop, on pouvait commencer à pirater des cassettes.
Oh, quelle découverte que ça, Game Genie.
Ouais. Ça juste pour d'aller. Finir avec un mois dans mon temps. Moi, dans mon temps, il fallait qu'on check les magazines de jeux vidéo pour trouver des codes secrets.
Ouais.
Ben, moi, dans mon temps, on n'utilisait pas de codes. Dans mon temps, on n'utilisait pas de codes. On n'avait pas besoin parce qu'on était hot.
Oh!
OK, ben, sauf dans Contra, OK?
Ouais, dans le contrat, c'est up, down, down, left, right, BA, start. T'as pas le choix parce que sinon, tu vas trouver rough la ride.
Et voilà. Alors, ben c'est bien. Hey, Laurent, tu sembles être venu en full qualité parmi nous.
Ouais, ben, c'est vrai que les internets des tubes chez nous, ils ont rebranché, là.
Oups, ah ben, c'est, ça pourrait être discutable. Ah, c'est dommage parce que j'aurais aimé ça enchaîner avec toi et ne pas confondre avec j'aurais aimé ça t'enchaîner. Mais j'aurais aimé ça enchaîner avec ta chronique parce que t'as un sujet assez intéressant. Veux-tu. On va s'essayer, hein? Qu'est-ce que t'en penses?
On va s'essayer, puis si vous m'entendez mal, vous me flushez, puis ça sera ça, puis je serai pas triste.
Bon. Ben... Pas grave, on dirait que tu parles en autotune.
Ouais, c'est vrai. Laurent, il a comme son. Son studio avec lui qui traîne partout. Puis, et voilà.
C'est plus toi, mais...
Ah oui, c'est vrai. Alors, Laurent, tu me parles de quoi, mon brave?
Ah, ben, je parle de ce qui semble avoir passé à côté de la plupart des médias suite à l'annonce du iPhone 4S. La révolution que personne a vu passer puis qui va s'en venir, c'est Siri.
Siri, oui.
Le système de reconnaissance vocale. A priori, ça a l'air bien simple. Okay? C'est un système de reconnaissance vocale. Tu dis « Allô, envoie un email », puis ça envoie un email. On n'en a pas fait un gros plat. On était surtout probablement frustrés de ne pas avoir eu un meilleur appareil, même si après le 4, il ne peut pas avoir le 5. Il fallait absolument qu'il y ait un intermédiaire. Enfin, je pense que se cache présentement dans ce système une révolution. Autant que la révolution des smartphones avec l'Internet disponible en tout temps, a révolutionné comment on utilise nos mobiles, mais je pense que ce système de reconnaissance vocale-là a un potentiel de refaire la même chose, le même niveau de révolution. Parce que là, si ça fonctionne comme les démos l'ont fait, puis si pour moi en français aussi ça marche aussi bien,
ouais.
Ça va être débile. Genre, t'es en auto, tu reçois un texte, tu dis « Réponds, je vais être là à 8h, send », puis ça s'envoie, mais libre à 100%. Partout, tout le temps, de pouvoir dire à son téléphone de faire les choses. On est rendu dans Odyssey de l'espace de mineur, là. I'll open the pod bay doors. The pod bay doors.
I'm afraid I can't let you do that.
Ouais, exactement. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, attachez votre sucre, là, quand ça va être bien en place, bien répandu, bien débogué, ben, j'imagine le premier marchera pas trop bien, là. Ça va être assez débile. Puis on a peut-être une nouvelle page du futur de l'Internet et de la technologie mobile devant nous.
Parce que ça va au-delà des fonctions vocales préprogrammées qu'on avait sur les téléphones il y a une couple d'années. Là. C'est vraiment un système, allô l'anglicisme, un système stand-alone, un système qui se tient tout seul.
Standalone.
Ouais, c'est ça. On va y aller avec standalone, un système
autonome.
Hey, merci Laurent, tu me sauves les fesses. Vraiment qui va analyser chaque fonction qui lui est commandée et transformer ça justement en commande. C'est génial là.
J'ai Mac Rose qui nous a donné l'information concernant où trouver Laser Suit Larry en HD. Pour ceux qui nous suivent sur Geekbécois, j'ai retweeté l'information, donc vous pourrez voir sur notre profil sur Twitter.
Mais chers amis, c'est 18 ans et plus.
Ah ben là.
Bon, on va revenir on va revenir à Laurent, oui.
Ouais, mais c'est ça, Laurent. Je trouve ça drôle que tu parles de Siri parce que j'ai regardé un vidéo d'un démo d'une personne de Macworld. Que, on s'entend, eux autres, ils ont toutes les bébelles à Apple avant tout le monde.
Évidemment.
Il y avait un 4S dans les mains et il a essayé Siri. Et moi je m'attendais à ce que ça soit bon. Ben, il va faire un démo à la Apple que c'est vraiment
super bien. Pratiquement arrangé, scripté.
Ben, je vais... À la grande surprise de tout le monde, ce que vous avez vu on stage, j'étais arrangé. My God! Ah. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai quand même été impressionné par la technologie. Révolution, pas tout de suite, mais bientôt. Parce que, écoute, le gars, il disait, carrément, là, puis il disait, j'ai faim, je voudrais manger. Il disait, cherche des restaurants. J'ai trouvé des restaurants. Tu sais, c'est sûr que la voix n'est pas naturelle.
C'est vraiment... Oui, mais c'est exactement tout ce qu'on fait déjà avec nos appareils. C'est juste que ça devient tellement naturel. Moi, si je cherche une information, là, justement, je cherche un restaurant, ben là, j'ouvre mon téléphone, je m'en vais sur whatever, Yelp ou Google Maps, puis là, je fais une petite recherche, puis j'ai quelque chose, puis je pèse dessus. Mais si je peux juste dire au téléphone, « Hey, y a-tu une pizzeria dans le coin? » Puis il fait « Doudoudou! » Oui, deux coins de rue à droite, un coin de rue à gauche. Je vis dans le futur, là.
C'est clair, là. Puis je veux dire, simplement, c'est comme... Rappelle-moi de manger un bain en arrivant au travail. OK, je vais te rappeler de manger un bain au travail. C'était carrément ça. Puis il l'a fait. Puis grâce à la géolocalisation, Siri va faire OK, t'es arrivé là. Oublie pas de manger ton bain. Ah, merci, oui. Siri.
Parce que moi, là, j'utilise mon téléphone. Vu que j'oublie tout le temps, ben j'utilise beaucoup le calendrier de mon téléphone pour me mettre des rappels. Mais le problème, c'est que de un, j'oublie de les mettre, mes rappels. Puis de deux, je suis paresseux. J'ai pas le goût de l'ouvrir, de le déverrouiller, d'aller dans le calendrier, de faire ajouter de nouveau, rentrer un compte, tu sais, OK, date, il rappelle, ouais, une sonnerie 5 minutes avant, quelle sonnerie je vais prendre, OK, send, puis ainsi
de
suite.
Et pourtant, tu l'as apporté de la main.
Juste pour me rappeler qu'il faut pas j'oublie d'arrêter à l'épicerie en venant de travailler après. Mais si je peux juste dire à mon téléphone, hey, il faut que je passe à l'épicerie en revenant à la maison tantôt, puis qu'il me le dit quand je m'en viens, c'est fantastique, je vais capter avec ça.
Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'application dans le gaming. Imaginez, là, jouer à StarCraft, mais vocalement dire « Préparez Zerg Rush ». Ben, Siri, prépare-moi un Zerg Rush à StarCraft. Puis là, il prépare tout ton Zerg Rush, t'as pas besoin de rien faire. Puis après ça, va Zerg Rusher le Protoss. Il envoie le Zerg Rush.
Ubisoft a présenté exactement ça à E3 avec Ghost Recon.
C'est sûr que c'est pas BioWare?
Non, parce que je m'en suis rendu compte vu que c'est mon grand patron qui a fait la présentation.
OK.
C'était un peu drôle parce que il s'en servait surtout pour fignoler son arme, mais avec des commandes. Dans le fond, c'était la présentation avec la Kinect, puis la reconnaissance vocale lui permettait de faire des changements sur son arme en jouant sans utiliser les touches du clavier de la souris ou plutôt de la manette de l'Xbox.
Ah oui, c'était le démo de Gunsmith de Ghost Recon.
Exactement, de Gunsmith, oui. Qui servait justement
la différence, c'est qu'il est associé à des keywords, tandis que Siri, c'est totalement autre chose. Tu lui dis une phrase, puis lui, il analyse la phrase, puis il fait
« Oh,
OK! »
Dans le contexte d'un jeu, on s'entend que tu veux l'efficacité la plus pointue possible, fait que le joueur va utiliser des mots-clés qui vont être reconnus du premier coup tout le temps, rapidement, des phrases courtes. Fait qu'il n'ira pas dire « Cher ordinateur, j'aimerais s'il te plaît que tu recherches mon... » Ah! » clic, tu pars, tu continues. Fait. C'est pas grave que ce soit des mots-clés.
Ben, ça va surtout, surtout dans un domaine comme les jeux justement de stratégie où c'est souvent des commandes répétitives. Tu commenceras pas justement à lui réciter un poème pour qu'il te fasse avancer un petit troupeau de Marines ou quoi que ce soit. Là.
Le challenge, ça serait de passer tes commandes sur Siri pendant une journée en haïku, voir s'il comprend.
C'est ça. Mais moi, ce que je trouve cool de Siri, c'est que déjà que le iPhone et les appareils intelligents en général essayent vraiment toujours de se développer en tant qu'assistant personnel. Puis avec Siri, écoute, c'est vraiment comme si tu avais un assistant qui te suivait partout, qui pas qui obéit, mais qui va essayer de répondre à tes requêtes à chaque fois que tu vas y dire de quoi. Écoute, moi, je trouve que ça pousse loin en six bols. Là.
Mais je viens de penser à ça. Laurent, tu as mentionné la fameuse phrase « I'll open the pod bay door ».
Ouais.
Ben, sur Siri, si tu dis ça, ben Siri va carrément te faire un petit coup d'attitude et te dire que tu peux pas faire ça. Il fait vraiment... Tu sais, je veux dire, il y a des jokes dedans. Tu sais, je veux dire, toutes les jokes que tu peux passer comme « What is the answer of life? »
Ah, il va te donner 40. «
The universe and everything else. » Il va te sortir, il va carrément reconnaître, OK, c'est ça, je vais aller voir dans Wolfram Alpha, c'est ça la réponse.
Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même fou que cette technologie-là soit rendue aussi accessible à n'importe qui. Ça existe sûrement déjà depuis longtemps, mais probablement pour des compagnies privées, mais pour le domaine public, que tu aies ça au bout de tes doigts pour avec un appareil qui coûte, bon, je m'en ai dit qu'il coûte pas cher, qui coûte relativement cher. Mais ça va rester à développer. Moi, mon gros questionnement là-dessus, c'est, bon, en ce moment, c'est sûrement, comme le soulignait Mark Cruz sur Twitter, ça doit être implanté aux États-Unis. En anglais, aucun problème. Écoute, on développe. Pour la France, ça va sûrement être un français correct, super bien reconnu. Qu'est-ce qui va arriver avec nous autres au Québec, avec notre bel accent à peine carré? C'est vrai,
pense. Ouais, Siri, séduis-moi ça, s'il te plaît.
Ouais, c'est ça.
Ouais, avec les gros anglicismes, là. Séduis ça.
Ouais, séduis-moi cette bébelle-là, que je puisse la faire plus tard.
OK, Siri, rappelle-moi donc qu'il faudrait peut-être que je mange un beigne. Ça veut dire, avec le bel accent que je viens d'utiliser, puis ça, c'était mon Québécois du terroir profond.
Vous parliez de la présentation live tantôt, qui a eu quelques accros vu que ça avait été stagé et blablabla. Il y a notre petite Samia internationale, notre membre geekbécois invisible, qui nous dit sur Twitter que derrière chaque machine, il y a un humain pas fiable. Merci Samia.
Puis s'il travaille chez Apple, il vient de se faire mettre dehors.
Écoute, mais pour vrai, comme je dis, là, ça vient d'optimiser le concept d'assistant personnel à la puissance 1000.
À fond la caisse, là.
C'est le fun. On verra ce que ça va donner. Toi, Laurent, est-ce que tu crois que tu vas l'essayer sur un appareil bientôt?
J'aimerais ça l'essayer, mais je ne chargerai pas mon appareil pour ça. C'est pas assez, je pense, présentement pour justifier un changement d'appareil. Fait que c'est pas, je n'irai pas me pitcher pour remplacer mon 4 pour un 4S. Si j'avais la chance de taponner un peu avec Siri, j'aimerais bien ça voir. Sauf que, une chose est sûre, c'est qu'il faut attendre que Apple finisse la mise en marché canadienne. Parce que, bien que Siri va fonctionner en français, l'intégration n'est pas complète. Il n'y a aucune cartographie de fonctionnalité ni de recherche locale avant 2012. Peut-être début 2012 ou fin 2012, mais pas avant 2012. Donc, pour un an encore, ça va être plutôt moyen pour nous, le service de Siri en français au Canada.
On n'aura pas le temps de l'essayer avec la fin du monde qui s'en vient.
J'ai Marc Ross qui m'a donné un lien d'une vidéo du Figaro qui l'a essayé en français. Je viens de le retweeter.
Ah, ben c'est bon.
Bon résultat?
J'ai pas eu le temps de le regarder encore. Là.
Ben, on mettra le lien sur le site, sur la page du podcast. Parfait. Sur le site geekbecois.com. Pouvoir aller le voir tout le monde en même temps, voir s'il se plante ou bien si vraiment il se fait servir au doigt et à l'œil par son téléphone.
Ça serait le fun, pour être bien honnête, là. Ah.
Mais juste la gestion des rendez-vous, c'est déjà quelque chose de vraiment, vraiment pratique. Et aussi, trouver les gens dans mon bottin, parce que ça, je suis vraiment pas capable. À chaque fois que je cherche quelqu'un, je parle nom de famille, après ça, non, c'est par prénom, puis après ça, j'avais par prénom, puis ah, c'est pas le bon, puis ah, j'avais pas mis son prénom, puis...
Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on parle maintenant à notre téléphone comme si ça serait une personne. C'est comme, Siri, tu peux-tu me trouver une place où ils vendent des bagels, s'il te plaît? Ben là, c'est sûr qu'ils ne me comprendraient pas parce que je viens de parler en beau québécois, mais...
Ben, c'est, j'ai vraiment l'impression. Ils peuvent pas s'empêcher de faire une interprétation de notre français pour le système. Si c'est pas fait nativement par Apple eux-mêmes, il y a peut-être une application connexe qui va sortir, là.
Ben, je pense qu'on va, ça va être comme on fonctionne déjà pour la plupart des autres outils de reconnaissance en français, c'est que dès qu'on s'approche le moindrement du français international, c'est suffisant pour la mécanique de reconnaissance. On n'a pas besoin d'avoir l'accent en plus, juste que sujet, verbe, complément, les phrases soient structurées relativement pareil, le système va décoder ce qu'on a à dire.
Bref, on va parler en français Radio-Canada, notre téléphone.
Et c'est ça, on pourra pas dire... check Google pour, tu sais, ça marchera pas vraiment pas.
Si ça dit, serait le fun, par exemple.
Si on dit cherche un restaurant, ça va marcher.
Ben, il y a Google qui va avoir une fonction de recherche par voix bientôt. Ouais. Je pense que c'est déjà en bêta aux États-Unis.
C'est déjà là, même.
Ben, ça marche déjà sur les Android, ça.
Ah, c'est ça, sur mon téléphone, si je dis pizza place, il va me trouver une pizza place.
T'sais. C'est merveilleux, ça.
C'est assez impressionnant.
On tourne tout le temps autour de la bouffe hein, quand on parle des commandes vocales. Ça va bien, les gars? qui veut un snack, là? D'ailleurs, juste pour terminer avec Siri, c'est sur une note un peu plus légère, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la publicité qui ont sorti pour ça, là, la supposée utilisation de Siri dans la vie de tous les jours. Là. Ça a été sorti par Apple, évidemment, il y a environ 2 semaines. Et puis, il y a quelqu'un qui a refait les voix de Siri.
La Siri.
Oui, c'est ça. Exactement.
Oh, c'est tellement drôle.
Avec la voix de GLaDOS de Portal. Oh. Mais elle est insolente, mes amis. C'est merveilleux. Avec les mêmes...
The traffic will be slow and meaningless. Ouais, life
c'est
your life.
Moi, ça, c'est la phrase qui m'a vendu à toute la joke au complet. C'est comme, oh my God, c'est vraiment dans la thématique du personnage de GLaDOS dans Portals.
Baveuse à souhait. Là. Donc, si vous connaissez pas un peu Portal et puis que vous voulez rire un petit coup, je vous conseille d'aller voir. En fait, je peux pas vous donner l'adresse là parce qu'on sait que les adresses YouTube sont tellement faciles à donner.
Ben, je vais la tweeter dans quelques secondes avec le hashtag de Geekbécois. Vous allez tous pouvoir la voir.
Laurent, le super-héros! Puis on va aussi rendre l'adresse disponible sur la page du podcast. Là, d'ailleurs, vous allez pouvoir télécharger le podcast pas trop longtemps après la fin de notre enregistrement. Je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui, les copains.
Ah ouais. Ouais. Déjà, mon Dieu!
Oui, mais ça passe vite. si je m'étais pas aussi enfargé, on aurait sûrement fait un beau 15 minutes sharp. Mais non, on a fait 1h30, ce qui est quand même pas pire. Fait que j'aimerais beaucoup remercier tout le monde qui nous a écoutés. Vous êtes super gentils, qui a participé avec nous autres. C'était super le fun de vous voir réagir sur Twitter. Vous étiez en feu, les copains.
Ouais, comparé à la première émission, on avait le support du peuple.
Ah non, c'est le fun, puis on va juste aller en grandissant. Fait que voilà. Avez-vous un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, les amis?
Ben moi, juste pour dire que je vais changer mon 3GS pour un 4S juste pour avoir un Jarvis dans mes poches.
Bon, juste pour avoir un quoi?
Un Jarvis, l'ordinateur dans Iron Man.
Oui.
Ouais, mais tu peux pas pogner fichier puis jouer au basketball avec pour les jeter dans une poubelle.
Il y a un app pour ça.
I know.
Alors, c'est ça. Ah, voilà, Laurent vient de tout juste d'envoyer sur le hashtag Geekbécois l'URL pour aller voir les vidéos de YouTube de
Siri. Ouais, c'est vraiment bien fait. Celui qui a mixé la voix a vraiment un bon talent. Là. C'est pas mal drôle.
C'est vraiment il est pas mal king.
Alors voilà, ben merci Jonathan. Et Bruno, quelque chose à dire avant de foutre le camp?
foutre le camp, écoute, moi j'ai envie de me pousser de vous autres, ça n'a pas de bon sens. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que surveillez le monde des jeux vidéo parce qu'on approche du Black Friday! Donc, il va y avoir beaucoup de grosses sorties de jeux vidéo et la fin de semaine prochaine, surveillez ça, BlizzCon s'en vient et on risque de faire la couverture de BlizzCon.
Hey, donc, je nous le souhaite.
On va parler des gros points de tout ce qui s'est passé. Donc, ça va être relativement balèze.
Yeah, yeah, yeah. Laurent, mon cher?
Yep.
Quelque chose
à dire? Pas en tout. J'ai rien à dire.
Bon, ben, ça tombe bien, parce que je te donnais pas plus de temps que ça. Bye. Non, mais merci d'avoir été avec
tiens, pour finir, vu que je parle presque jamais des produits Apple, on a eu un bon million de précommandes du 4S.
Hey,
j'espère qu'ils vont être capables de suivre la cadence et que ça ne fera pas encore des mois de chialage et de monde qui font la file devant les magasins pour avoir les 3-4 modèles par jour qu'ils sont capables de shipper.
Y a-t-il déjà du monde qui font la file devant les magasins?
Non, mais je veux dire, le 4, ça a été vraiment une plaie. Pendant des mois, il y a eu des ruptures de stock. Puis moi, j'ai acheté le mien beaucoup, beaucoup plus tard. Fait que, tu sais, j'ai pas eu ce problème-là, mais je connais beaucoup de personnes qui ont eu de la difficulté à changer leur appareil.
Même chose avec l'iPad 2, d'ailleurs.
Oui, c'est sûr, c'est plate d'être victime de son propre succès, mais j'espère que pour le 4S, ce sera pas ça. Là, on a dit que la compagnie Foxconn avait fait quelque chose comme 1 million par jour, je sais pas trop, un chiffre complètement débile d'appareils pendant tout le mois de septembre. Fait que j'espère
que leurs employés vont être bien traités parce que, il me semble, 1 million par jour, ça fait de l'overtime.
En espérant que leur produit soit pas botché, par exemple.
Ouais, pas d'Antenna Gate cette fois-ci.
Deux?
Ça devrait pas.
Parce que, me semble que se faire dire tu tiens le téléphone de la mauvaise manière.
Ah, ouais, quand
c'était pas cool.
Le 4 est sorti, c'est vrai, on en avait entendu parler. Alors, c'est ça. Merci tout le monde. Et je vous promets, je devrais pas m'embarquer là-dedans, mais je vous promets presque que c'est ma dernière animation. Lynn, en espérant qu'elle se porte mieux pour notre prochain épisode dans 2 semaines, mercredi 20h. Sera à son poste d'animatrice.
Une autre chose à ajouter avant qu'on ferme ça, c'est qu'on enregistre très bientôt notre prochain podcast officiel Geekbécois. Oui. Donc, on va avoir pas mal de sujets intéressants, ça s'en vient pour vous.
Merci de le mentionner, Laurent, c'est vrai.
Ça fait plaisir.
On va se gâter pour vous gâter. Alors, voilà. Excusez, il est tard.
Il est temps qu'on finisse.
Il est vraiment temps qu'on finisse. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Vous êtes mes meilleurs amis. Tout le monde. Tout le monde. Sauf peut-être Laurent, mais
on va s'en parler.
Moi. Jean-François, t'es le best des best. Oui, d'ailleurs, merci à Jean-François qui a pas trop discuté avec nous, mais qui était là sur Twitter pour suivre tout ce qui se passait.
C'était notre œil de linge.
Exactement. On se revoit dans vos oreilles dans 2 semaines, mercredi 20h, et venez télécharger le podcast sur le site qui sera disponible très très bientôt sur geekbecois.com. Merci tout le monde et à la prochaine.
Bye.